Actu SF, les podcasts.
Vous voyez, nous allons pouvoir commencer cette table ronde. Alors j'avoue que je suis très impressionné aujourd'hui de modérer une table ronde sur Lovecraft dans tous ses états. C'est moi, modérateur, quelque part, qui suis dans tous mes états, parce que animer une table ronde où il y a monsieur S.C. Joshi, qui est quand même le spécialiste mondial de Lovecraft et qui vient de sortir en français donc la biographie de l'auteur, Lovecraft, je suis Providence, deux volumes très imposants que vous voyez sur cette table. Donc je suis très très impressionné d'avoir monsieur Joshi avec nous, d'autant plus que il y a le maître d'œuvre de la traduction, Christophe Thiel, qui se trouve là et qui a été le directeur donc de ce projet de traduction colossal et qui est sans doute le plus éminent des Lovecraftiens français. Il a d'ailleurs écrit aussi un guide Lovecraft. Et j'ajouterai aussi, vous comprendrez pourquoi, que c'est en même temps un spécialiste de Robert Chambers. Donc, entre M. Joshi et Christophe Thiel, nous avons Sophie Laribi-Glaudel, qui est une doctorante en histoire des religions et qui est aussi une passionnée de Lovecraft et qui va pouvoir, comme cela, nous apporter un point de vue sans doute un peu plus inhabituel que celui qu'on a sur Lovecraft et les mythes lovecraftiens. Et tout au bout, là-bas, mais que l'on voit bien, donc Michael Rock, qui est un auteur qu'on avait découvert avec moi, Peter Pan, mais il ne s'intéresse pas qu'à James Barry, il s'est aussi intéressé justement à Robert Chambers, avec le Livre jaune, qui est un hommage à Chambers, qui fut l'une des grandes influences intellectuelles de Lovecraft. Donc vous voyez, tout se tient. Et donc, pour commencer à étudier tous les états de Lovecraft, je vais peut-être demander à M. Joshi, qui justement nous décrit au jour le jour, dans sa biographie, tous les états, y compris les états d'âme, de Lovecraft. Donc peut-être pourriez-vous, Monsieur Joshi, commencer par nous parler, alors très brièvement, de Lovecraft qu'on connaît en France jusqu'à maintenant plutôt à travers la belle légende de Jacques Bergier. Voilà.
Both in the United States and in France and perhaps elsewhere in the world. A great many myths have emerged about Lovecraft over the years. In some cases, these myths began with Lovecraft himself. Through his wide correspondence, it becomes obvious that he was shaping a very precise image of himself as something of a recluse who wrote only at night and slept during the day, who kept to himself, was a person lost in the 18th century and instead of living in the 20th. Much of this self-portrayal was intended as humor, as something of a satirical or a self-referential parody of himself. In fact, Lovecraft had many friends, many correspondents. He was not exactly gregarious, but he also traveled widely up and down the East Coast of America. Did not always write at night. After his early death, many other scholars, critics, writers picked up on some of these myths and elaborated them, because I think it suited their own interests to portray Lovecraft in that manner. And it has taken a lot of effort to overcome these myths, to show how they are in fact mythical. And I think the real Lovecraft actually is a much more interesting individual than what is portrayed in these myths.
Grab your mic.
Oui, alors à la fois aux États-Unis et en France et un petit peu partout dans le monde, il y a eu beaucoup de mythes autour du personnage de Lovecraft au fil des années. C'est vrai que, en fait, ces mythes d'ailleurs, souvent c'est Lovecraft lui-même qui en était à l'origine à travers sa correspondance. Parce qu'il aimait donner une image de lui-même comme une sorte de reclus qui n'écrivait que la nuit, un noctambule qui dormait le jour et puis qui était vraiment complètement dans le repli sur soi, quelqu'un qui vivait plus dans le 18e siècle que dans le 20e siècle dans lequel il était physiquement. Et cette espèce d'autoportrait voilà, qu'il a forgé à travers ses correspondances, c'était une sorte de d'auto-parodie, de satire sur lui-même. Mais en fait, Lovecraft avait quand même pas mal d'amis, beaucoup de correspondances, beaucoup de relations épistolaires. Il a beaucoup voyagé, notamment sur la côte est des États-Unis, et il n'écrivait pas que la nuit, comme il essaye de le faire croire. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'était un être grégaire, mais voilà, c'était pas non plus le reclus que certains ont décrit. Parce que justement, beaucoup d'universitaires et d'érudits qui se sont penchés sur la figure de Lovecraft se sont un peu emparés de cette image du reclus, de ce mythe, et ont brodé autour de ça parce qu'en fait, ça leur plaisait cette image-là. Ça les arrangeait bien, en fait. Et donc, moi, ça a été un travail colossal de justement détricoter cela pour essayer de faire ressurgir le vrai personnage de Lovecraft. Il est beaucoup plus intéressant, un individu beaucoup plus intéressant que ce qu'on en avait dit auparavant.
Merci. Alors, Lovecraft n'a jamais, je crois, été aussi célèbre qu'aujourd'hui. Il est présent partout et à poser le nom de Lovecraft sur quelque produit que ce soit quasiment est un gage de vente, quasi certaine. Pourquoi, Christophe Thiel, pensez-vous que Lovecraft soudainement est devenu comme cela la référence ultime?
Lovecraft a eu la possibilité, enfin il est devenu un nom connu, au moins en tout cas en France, ironiquement, en France avant les États-Unis. Et à partir du moment où il y a eu ce passage du nom de Lovecraft à la culture populaire, à une espèce de connaissance générale, je pense qu'on trouve beaucoup de choses dans son œuvre, avec en particulier évidemment le personnage de Cthulhu, avec cette figure très reconnaissable, avec ses tentacules, etc., qui se prêtait beaucoup à des reprises à la fois sérieuses et beaucoup ludiques, beaucoup parodiques. Donc on retrouve des peluches Cthulhu, on retrouve Cthulhu dans un épisode de South Park, et ça s'y prêtait très bien.
Il y a même un coussin Cthulhu, je crois.
Alors je ne suis pas, j'ai pas connaissance du coussin Cthulhu. Je ne sais pas si je vais m'assurer dessus personnellement.
Je l'ai vu, il ressemble à c'est un coussin en forme de Necronomicon, en forme de livre, marqué Necronomicon, et quand on l'ouvre, il y a un Cthulhu en peluche qui en jaillit.
D'accord. Moi, j'ai vu que récemment, il y a une espèce animale préhistorique qui a été découverte, qui est une espèce de concombre de mer à multiples tentacules, et toutes les nouvelles de vulgarisation scientifique qui ont été publiées ont fait allusion à Cthulhu.
Alors, justement, voilà un mythe. Cthulhu, c'est l'exemple même du mythe, de la mythologie créée par Lovecraft à l'œuvre. Sophie Larribi-Glaudel, vous pourriez peut-être nous parler un peu de la manière dont, d'après vous, Lovecraft, qui était un autodidacte à la base, a construit cette mythologie qui, aujourd'hui, est connue de tous.
Donc moi, je vais apporter un regard d'historienne des religions, parce que c'est sous cet angle que j'ai abordé les textes de Lovecraft. Ce qui est très intéressant quand on étudie Lovecraft, c'est qu'il y a trois axes qui se détachent. Lovecraft et les mythes lovecraftiens, et puis le mythe Lovecraft que vous avez évoqué. Alors sur Lovecraft et les mythes lovecraftiens, comment est-ce que Lovecraft a construit cette mythologie? Alors, ce qui est très intéressant quand on la met en perspective des mythologies anciennes, on sait que les civilisations anciennes fantasmées occupent une place importante dans ce système mythologique, matérialiste de Lovecraft. Ce qui est très intéressant, c'est que l'on retrouve beaucoup d'éléments de ces civilisations anciennes. Alors, on a parlé de Cthulhu. Quand on étudie la Grèce ancienne et qu'on étudie aussi les civilisations minoennes, on pense forcément à ces poulpes qu'on retrouve sur quasiment toutes les céramiques minoennes. Vous vous promenez dans le département de préhistorique du Musée national d'Athènes, vous avez des poulpes partout. La première chose à laquelle j'ai pensé, évidemment, ça a été de le mettre en perspective avec, avec Cthulhu. Et je pense que Lovecraft aurait été très mal à l'aise en voyant ses représentations, lui qui n'appréciait guère les animaux marins. Donc d'autres influences dans la mythologie lovecraftienne, eh bien c'est alors c'est moi ce qui m'a interpellée, ce n'était pas tant les dieux ou autres, mais c'est sa manière d'écrire. Donc il fait intervenir d'autres narrateurs qui se présentent comme des folkloristes, comme des anthropologues, comme des historiens, notamment donc dans Chuchotement dans la nuit. L'écriture de cette matière mythologique autour de ces personnages qui apparaissent, dont on retrouve les dépouilles à la suite d'une inondation, l'écriture fait beaucoup penser aux historiens anciens comme Pausanias, qui nous racontent quasiment de la même manière. Voilà, j'ai vu ça, j'ai lu ça, on m'a raconté ça. Ça, j'y crois moins. Donc, ce qui est très intéressant dans le mythe, dans les mythes construits par Lovecraft, il y a certes ce panthéon, mais il y a aussi sa manière de l'écrire. Et vous dites qu'il est autodidacte. Alors, certains ont fantasmé sur le fait qu'il aurait connu des quantités de langues anciennes. Personnellement, je n'y crois pas, puisque à l'époque, l'acadien venait d'être déchiffré. C'était encore très... très réservé à une élite universitaire, et c'est encore aujourd'hui une langue quasiment impossible à apprendre en autodidacte. Le sumérien n'était officiellement pas encore réellement déchiffré. A priori, il ne connaissait pas ces langues-là. Est-ce qu'il commençait déjà à avoir accès aux textes qui étaient publiés et traduits ? Peut-être, mais il n'avait pas un accès direct à ces textes.
Monsieur Joshi, vous qui avez... étudier, donc, vous nous confirmez que Lovecraft ne pratiquait pas secrètement l'acadien ou le sumérien chez lui.
No, yeah, this is one of the many myths that emerged about Lovecraft. One of his colleagues, a woman named Zelia Bishop, wrote a memoir of Lovecraft about 15 years after his death, and did make this claim that he knew all these ancient languages, and I have no idea where she could have gotten that idea from. Let me be clear, though, Lovecraft was fascinated with language and with languages. He did find a fascination with the Greek and Roman mythology from as the early as the age of five. He himself thought of himself as something of a figure out of ancient Rome, transplanted into the present day, and he always had a great admiration for Roman civilization. But Greek myth was also a powerful motivating force in his work. I think that what Lovecraft wanted to do was to create a synthetic myth suitable for our times or his times. He actually said that he derived the idea of this mythology from the work of Lord Dunsany. Now, Dunsany was an Irish writer writing just a little before Lovecraft, and in his early work, he created an entire mythology based on the realm of Pegana, with all sorts of gods and demigods and worshippers. Now, Pegana was based in a fantasy realm, and Lovecraft's great innovation was to take this conception of a mythology, a theogony, and transplant it into the real world. But it should also be emphasized that these so-called gods, Cthulhu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, in the end turn out not to be gods at all. They are simply aliens from outer space whom human beings worship as gods because we in our limited mental understanding of these creatures, cannot see them as anything but godlike. That is the human myth-making faculty. And Lovecraft was, in a sense, a kind of anthropologist, showing how myths are created.
Thank you. Non, effectivement, il ne parlait pas sumérien au quotidien chez lui. Une de ses collègues, Zelia Bishop, a écrit une sorte de mémoire, d'autobiographie de Lovecraft 15 ans après son décès. Dans lequel justement elle affirme cela, qu'il parlait ses langues anciennes, mais je ne sais pas du tout où elle a pu puiser cette idée. C'est vrai que Lovecraft a toujours été fasciné par la langue et les langues, la diversité des langues, et puis qu'il a aussi développé une fascination pour la mythologie grecque, la mythologie gréco-romaine, et ce dès l'âge de 5 ans. En fait, il se voyait, lui, comme une sorte de figure de personnage issu de la mythologie gréco-romaine et qui aurait été propulsé issu de la Rome antique et qui aurait été propulsé à son époque au 19e 20e siècle. Il avait une admiration incroyable pour la Rome antique et pour la mythologie grecque. Moi, je pense que Lovecraft, ce qu'il s'est employé à faire, c'est à créer une sorte de mythologie synthétique qui puisse s'adapter et être comprise et valide avec les standards de son époque. En fait, il a puisé cette idée chez un monsieur qui s'appelait Lord Dunsany. C'était un écrivain irlandais qui a écrit juste un petit peu avant. Il n'était pas tout à fait contemporain de Lovecraft, mais presque, et qui lui-même avait créé une mythologie à part entière basée sur le personnage de Pagana. Et donc, cette mythologie-là, elle était créée de toutes pièces. C'était un monde fantastique à part entière. Et Lovecraft, en fait, s'est inspiré de cette théogonie qui avait été forgée par Lord Dunsany. Son génie, ça a été qu'il a transplanté cette théogonie à un monde réel. Et donc, en fait, dans l'œuvre de Lovecraft, on aperçoit justement ces dieux anciens puisés dans la théogonie inspirée par Dunsany, qui, en fait, on se rend compte que ce ne sont pas du tout des dieux, ce sont des extraterrestres qui viennent de l'espace, mais que les humains se sont mis à révérer, à qui ils ont voué un culte, parce qu'en fait, les humains, dans leur petite... Leur psyché un peu étriquée, ils pouvaient pas. Pour eux, ces personnages leur paraissaient vraiment fantastiques et c'était des dieux. Et en fait, Lovecraft, lui, moi je le vois comme une sorte d'anthropologue qui s'est amusé à décrypter en fait cette faculté humaine à créer du mythe.
Merci, Monsieur Joshi. Alors là, on a parlé, Monsieur Joshi a abordé Lord Dunsany. Il y a aussi une autre influence littéraire de Lovecraft dont on devrait parler parce qu'elle a été importante. C'était l'une des grandes admirations de Lovecraft, c'est Robert Chambers. Michael Rock, vous qui êtes aussi, je crois, un admirateur de Robert Chambers, puisque vous avez publié récemment, il y a quelques semaines, le livre jaune, qui est un hommage à Robert Chambers et à son roi en jaune.
Oui, je fais partie de la génération donc, qui est née dans la pop culture développée par Lovecraft et le mythe du mythe de Cthulhu, finalement. Et je me suis intéressé par des chemins de traverse à ces influenceurs, donc Chambers, en l'occurrence, qui a écrit dans les années 1850 un recueil de nouvelles qui s'appelle « Le roi en jaune ». Qui sont des nouvelles en fait qui ne parlent pas du tout du roi en jaune. Ce sont des nouvelles de SF. Pour l'année de publication, c'est assez étrange de lire de la SF qui se passe dans notre propre passé, mais c'est très intéressant dans le style et on sent en fait justement les prémices de la création d'une mythologie de grand dieu qui viendrait d'une dimension parallèle ou alors de derrière les étoiles. On commence à le sentir dans son recueil de nouvelles, même si ces nouvelles-là sont, quelque part bah, très... elles reposent sur notre monde réel et elles décrivent par exemple le Paris bohème du 19e siècle. Pardon. Donc ça reste quelque chose de très, très consensuel. Ce qui m'a intéressé justement, c'est cette approche d'une mythologie entre guillemets indicible. Indicible, c'est le mot, la marque déposée de Lovecraft. Ce qui m'a intéressé justement, c'est d'aller toucher derrière ces histoires ben, quelle est la part de fantastique et quelque part d'horreur ou de folie que l'on peut approcher par ces influences-là et donc qu'on va retrouver évidemment chez Lovecraft.
Vous êtes un lecteur de Lovecraft aussi, je suppose.
Oui, lecteur de Lovecraft, notamment j'ai terriblement été marqué par sa nouvelle de La Cité sans nom, donc qui se passe au beau milieu d'un désert qu'on pourrait situer au Moyen-Orient ou au Proche-Orient plutôt, et donc qui lui-même dévoile une cité qui est très proche des mythologies sumériennes, babyloniennes, on ne sait pas trop, mais en tout cas une civilisation perdue sous le désert du Proche-Orient.
Alors justement, le Proche-Orient, l'un des éléments les plus puissants de la mythologie lovecraftienne, c'est le Necronomicon auquel je faisais allusion, mais pas le Necronomicon en peluche sur lequel on s'assoit, mais le vrai Necronomicon, celui qui a été écrit par Abdullah Lazred. Hein, donc, là aussi, d'où vient ce Necronomicon? Alors, vous qui êtes une spécialiste, Sophie, de l'histoire des religions, et en particulier de celle du Moyen-Orient, d'où viendrait le Necronomicon?
Je pense que ça vient du fantasme créé par la découverte de ces civilisations. Les dernières tablettes cunéiformes ont été écrites, imprimées. On imprime en fait un calame dans l'argile au 1er siècle de notre ère à peu près. Et puis il y a eu une longue éclipse. On redécouvre ces signes au 17e siècle. Et puis c'est le 19e siècle, les campagnes allemandes, britanniques en Irak, pour trouver du pétrole, qui lancent ces campagnes archéologiques et on redécouvre cette civilisation. On ne sait pas tout de suite déchiffrer ces signes, on y arrive grâce à des textes bilingues et on se rend compte que cette civilisation un peu étrange, eh bien, elle n'est pas si étrange que ça, elle nous est très proche puisque la mythologie mésopotamienne porte en germe des textes qu'on retrouve dans la Bible. Le déluge, on le retrouve dans les textes sumériens. Ces civilisations nous fascinent parce qu'elles nous sont étrangement proches, elles le sont, et elles fascinent aussi si on parle des Sumériens, parce que justement, les Sumériens qui ont un petit peu précédé les Akkadiens, le Sumérien précède l'Akkadien, je ne vais pas rentrer dans les explications philologiques parce que c'est un petit peu complexe. La langue sumérienne, dont on utilise le système d'écriture, le cunéiforme, pour noter ensuite l'akkadien, qui est une langue sémitique comme l'hébreu et l'arabe, le sumérien, en revanche, la langue qui est une langue agglutinante, ne peut se rattacher à aucune autre langue connue. Ce n'est ni une langue sémitique, ni une langue indo-européenne. Et tout cela, avec l'étrange modernité de ces civilisations, a nourri des fantasmes, voire des théories du complot sur l'origine extraterrestre des Sumériens. Alors, il y a eu des mélanges entre ce qui était sumérien, ce qui était akkadien, babylonien, assyrien, notamment ces monstres chimériques, avec des têtes d'oiseaux, des corps d'hommes ou d'autres animaux. Il y a donc eu beaucoup de fantasmes sur une origine extraterrestre et régulièrement on me pose la question.
C'est Zecharia Sitchin, c'est ça le grand promoteur, non ? De l'origine extraterrestre.
Il me semble que... Donc je pense que tout ce terreau a aussi contribué à construire la légende du Necronomicon avec ces textes pseudo-sumériens inspirés, mais alors n'importe quel linguiste qui se penche dessus rigole. Parce que... Mais il y a très peu de personnes qui lisent fatalement le cunéiforme, et très peu de personnes qui comprennent l'acadien et encore moins qui comprennent le sumérien. Donc c'est facile de faire des faux, puisqu'il n'y aura pas grand monde pour vérifier ce que vous dites. Et puis en plus c'est fascinant, donc on peut facilement faire passer beaucoup de choses. D'où je pense c'est cette continuation avec des faux Necronomicon qui sont publiés.
Alors justement Christophe Thiel, vous pouvez peut-être nous parler, parce qu'aujourd'hui on a au moins deux Necronomicon différents, dont aucun ne rend fou que lorsqu'on lit.
Non, aucun ne rend fou. Il y en a eu un certain nombre effectivement de versions. Ça peut rendre fou de désespoir éventuellement, de les avoir entre les mains. Moi personnellement, le Necronomicon, c'est un mélange entre, c'est une sorte d'anti-Coran, revu et corrigé à la mode des grimoires de sorcellerie du Moyen-Âge. Donc que j'imagine comme contenant une espèce de mélange de poésie, de dessins, de recettes, et puis ça et là des révélations sur des grands anciens venus d'autres dimensions, quelque chose d'un peu d'infatras, voilà. Maintenant, évidemment, on peut jamais retrouver quelque chose d'aussi formidable que ce qu'on a fantasmé. Donc, au mieux, je pense ce qui a été fait de mieux, c'est les dessins que Druyet a fait, qu'il a présenté comme des pages du Necronomicon, sur lesquelles il y a des dessins et puis des lignes d'écriture illisibles. Voilà. Moins on en comprend et plus c'est inquiétant.
Monsieur Joshi, alors.
I'd like to add just several points. First, about the Lovecraft connection with Robert W. Chambers. As you know, if you have read The King in Yellow, that book purports to talk about a play called The King in Yellow, which drives people mad when they read it. And many later scholars have said, oh, well, this is exactly where Lovecraft got the idea of the Necronomicon, because that's what the Necronomicon does. It drives you mad. Unfortunately, Lovecraft read The King in Yellow only in 1927, some years after he had already created the Necronomicon, or at least cited it in his earlier stories. So that is itself a myth. Nevertheless, I'm sure that when Lovecraft read The King in Yellow and saw this discussion of this play, he said, oh, well, that's part of his interest in it. The other thing is that Lovecraft's interest in Middle Eastern matters is also of very early date, even before he got interested in classical Greco-Roman mythology. He was fascinated with the Arabian Nights. His mother gave him a copy of the Arabian Nights when he was 5 years old, and he read that book from beginning to end. And I think that is how his fascination with the Middle Eastern culture began. And I think the Necronomicon is his ultimate tribute to that early fascination.
Oui, j'aimerais ajouter quelques petits points, si vous me le permettez. Tout d'abord, à propos de la connexion entre Lovecraft et Robert W. Chambers. Robert W. Chambers avait écrit effectivement ce livre qui s'appelle « Le roi en jaune »,« King in Yellow », qui lui-même avait été inspiré d'une pièce qui s'appelait « The King in Yellow », et qui... rend les lecteurs, enfin chaque personne qui le lit perd la raison. Et donc, il y a beaucoup d'universitaires, de chercheurs ont affirmé haut et fort que Lovecraft avait puisé l'idée du Necronomicon dans ce roi en jaune. Mais ce n'est tout à fait pas possible, puisqu'en fait, on sait maintenant de sources sûres que Lovecraft n'a pas lu The King in Yellow avant 1927, c'est-à-dire des années après avoir écrit le Necronomicon. Donc là, il y a aussi quelque chose de l'ordre du mythe. J'imagine que Lovecraft ne renie pas complètement ce lien entre le roi en jaune et le Necronomicon, mais de là à dire qu'il s'en est inspiré, non. Et puis alors, je voulais aussi parler de l'intérêt que Lovecraft nourrit pour la culture orientale, le Moyen-Orient. En fait, ça remonte à très 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 tôt, à sa plus tendre enfance en fait. Avant même de s'intéresser à la mythologie gréco-romaine, il faut savoir que Lovecraft avait développé une fascination pour les mille et une nuits que sa mère lui avait offert quand il avait 5 ans. À cet âge-là, très jeune, il avait déjà lu, enfin peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, on sait qu'il les a lus de A à Z, ces mille et une nuits, ce qui n'est pas rien. Et de là, lui est née une fascination pour le Moyen-Orient. Et je pense que justement, à travers le Necronomicon, c'était pour lui une façon de rendre un hommage à ce goût qu'il avait pour ces cultures-là.
Alors, Lovecraft, on l'a vu, il est mis à beaucoup de sauces. Alors, j'aurais, avant qu'on aille plus loin sur l'influence de la mythologie, entre guillemets, hein, lovecraftienne, sur ce qui s'écrit aujourd'hui, j'aurais une question pour vous, Christophe Thiel, qui est un fin connaisseur. Est-ce que, comme pour certains autres auteurs, il y a des auteurs contemporains qui utilisent Lovecraft comme personnage de roman?
Oui, alors moi j'ai plus vu de Lovecraft dans la bande dessinée, bien que n'étant pas un connaisseur en bande dessinée, mais il y a eu quelques exemples assez remarquables récemment, que Lovecraft en tant que personnage de roman. Alors je sais qu'il y a toute une production récente qui renouvelle le genre de la fiction lovecraftienne. Pour moi, un des personnages remarquables qu'il faut citer, et dont je citerai juste le nom, c'est un des invités de cette année, c'est Anders Fager. Mais il y a aussi des gens qui ont décidé de prendre Lovecraft, le raciste, à son propre piège, et de décrire des histoires lovecraftiennes qui retournent à l'envers l'ambiance culturelle de l'Amérique ségrégationniste, avec des bouquins comme La Ballade de Black Tom, et l'autre c'est Lovecraft Country. Voilà. Le personnage de Lovecraft, là où j'ai envie de citer un livre, une bande dessinée où on le voit apparaître, c'est une biographie, c'est Celui qui écrivait dans les ténèbres, où il y a un découpage cinématographique de la vie de Lovecraft que j'ai trouvé très, très bien, très intéressant.
Il y a aussi une série de courts romans qui s'appelle L'Agence B, qui a été écrite par Neil Jomunsi. Et Lovecraft est un des personnages qui fait partie des agents spéciaux de cette agence-là. C'est un roman pulp où l'auteur a pris le plus grand gentil pour le confronter au plus grand méchant. Donc en fait, c'est Jésus-Christ qui revient sur Terre. Le crash de la zone 51, c'était lui. Et il est là pour botter le cul à Hitler qui est revenu sous forme de zombie. Donc à un moment donné, il va chercher Lovecraft pour l'aider dans sa quête. Voilà.
Ça a l'air tout à fait passionnant, effectivement. Vous en connaissez d'autres, Monsieur Zoshi?
I know several novels published in the United States that have Lovecraft as a character. In fact, I'm a bit embarrassed to say that I wrote one myself. it is called The Assaults of Chaos. It was just what you call a jeu d'esprit. I have Lovecraft and Ambrose Bierce and Lord Dunsany and Arthur Machen get involved in some adventures in England. Now, Lovecraft, of course, never went to England, but he was a great Anglophile. He loved the idea of English history and culture and literature, and wished he could have gotten to England. So in my novel, he does get there and have these supernatural adventures. The fact that Lovecraft is indeed appearing as a character again shows how he himself has become an iconic figure in popular culture. And I am sure this would be the most incredible thing that he himself could have imagined if he had been alive. Because he himself, of course, never had a book published in his lifetime, a book of his stories. And I'm sure that when he was on his deathbed, he was convinced that his work would fade away to oblivion. And now, look what has happened.
Oui, je connais effectivement plusieurs livres qui ont paru aux États-Unis dans lesquels Lovecraft figure, enfin est un personnage. Et d'ailleurs, j'ai un peu honte là, mais je dois dire que j'en ai commis un de ces livres-là qui s'appelle Assault of Chaos. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un peu une plaisanterie, hein, ce livre. Voilà, c'était un petit peu un exercice de style, comme vous diriez vous en France. Et donc dans ce livre, je mets en scène Ambrose Bierce, Lord Dunsany. Arthur Machen, vont vivre tout un tas d'aventures en Angleterre avec Lovecraft à leur côté. Donc dans la vraie vie, Lovecraft ne s'est jamais rendu en Angleterre, mais il était par contre très 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 anglophile. Et donc voilà, moi dans mon livre, je lui donne la possibilité de s'y rendre, et il y vit tout un tas de pérégrinations complètement paranormales, surnaturelles. Et donc voilà, le fait que Lovecraft soit maintenant repris comme personnage dans les productions littéraires d'autres montre à quel point il est devenu une figure iconique. Et pour lui, ça aurait été vraiment complètement... C'est la chose la plus incroyable. Enfin, jamais il n'aurait pu imaginer ça parce que, comme vous le savez, lui, de son vivant, n'a jamais vu un seul de ses livres, un seul de ses recueils publié à proprement parler, et je pense que sur son lit de mort, il s'est forcément dit que toute son œuvre allait passer aux oubliettes. Mais en fait, regardez ce qui se produit aujourd'hui, c'est l'inverse.
Mais alors justement, j'ai une question à vous poser, et qui là est une question principalement à vous trois. C'est que, bon, certes, lorsqu'il allait mourir, comme vous le disiez, Monsieur Joshi, il a peut-être pensé que son œuvre allait disparaître. Mais avant, il a quand même, de manière très consciente, établi les bases et construit les bases de sa mythologie à travers ce qu'il écrivait lui-même, mais aussi à travers les échanges avec un certain nombre d'auteurs qui étaient des jeunes auteurs qu'il admirait et qui réutilisaient avec son autorisation un certain nombre de ces dieux, etc., et qui donc ont contribué à construire la mythologie lovecraftienne du vivant même de Lovecraft. Donc c'est quand même en même temps une construction qui était très raisonnée. Alors je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait répondre le premier.
I think it is a bit of an exaggeration to say that Lovecraft truly encouraged other people to write in his mythos. What often happened is that these other writers simply wrote a story inspired by Lovecraft, and they would send it to him. And he was a very gentlemanly individual, he would say, oh yes, this is a very good story. And this is how this myth began to spread in his own lifetime. And of course, in some sense, he liked the idea because he liked the thought of other many different writers referring to these gods, because that lent an air of authenticity to this mythos, that it was not simply his own creation, but that a number of people were drawing upon this secret body of lore. And of course, the devotion that Lovecraft inspired merely by corresponding with these people is remarkable. August Derleth, who became his greatest disciple and his publisher after Lovecraft's death, never met Lovecraft, only corresponded with him for about 11 years. And yet, he was so deeply moved by his association with Lovecraft and by Lovecraft's early death that he felt the need to rescue Lovecraft's work. later individuals who never even had any contact with Lovecraft began to feel the same way. In fact, I myself, obviously born many years after Lovecraft's death, feel a bond to Lovecraft just from reading his correspondence. It is an incredible body of work, in some ways greater even than his fiction, because it lays bare the true nature of his personality.
Alors, bon, je trouve que c'est un petit peu exagéré quand même de dire que Lovecraft aurait vraiment incité d'autres auteurs à écrire, à poursuivre le mythe qu'il leur faisait, enfin qu'il était en train de forger. Mais oui, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé et fait part de sa mythologie, et que beaucoup de ses contemporains ont écrit des histoires, des récits inspirés par ce que Lovecraft avait créé, et puis lui ont envoyé à Lovecraft. Et puis comme c'était quelqu'un de plutôt aimable, malgré tout ce qu'on a pu dire, il a pu approuver ce qui avait été produit à partir de ses idées à lui, sa mythologie. Et je crois qu'il aimait aussi cette idée de justement que cette mythologie qu'il créait était reprise par d'autres, que s'il y avait tout un panel, un éventail différent de gens qui faisaient référence aux divinités que lui avait créé, forgé, ça leur donnait une sorte de d'authenticité. C'était pas juste lui dans son coin qui avait créé sa propre mythologie, mais ils étaient nombreux à puiser dans cette mythologie, à la forger, et donc ça devenait comme une sorte de folklore, une sorte de folklore secret, une œuvre qui décrivait ce folklore secret. Et oui, alors pour revenir à sa correspondance, c'est vrai qu'il s'est beaucoup consacré, enfin avec un dévouement incroyable, à sa vie, à ses relations épistolaires, notamment avec Auguste Derleff, qui est devenu son plus grand disciple et puis qui ensuite est devenu son éditeur, mais qui ne l'a jamais rencontré en chair et en os, qui a correspondu avec lui pendant 11 ans, mais qui, bon, on ne l'a jamais vu en vrai, mais qui a été tellement profondément touché et marqué par Lovecraft, l'homme, et par sa mort prématurée, qu'il a senti le besoin impérieux d'aller à la rescousse de l'œuvre de Lovecraft. Et moi-même, qui suis née bien des années après le décès de Lovecraft, en lisant ces écrits épistolaires, je me suis senti vraiment un lien avec ce qui s'y disait, et j'ai senti qu'il fallait justement faire honneur au personnage. Et parce que c'est vrai que toute cette correspondance, c'est un très très grand... c'est un travail titanesque, et qui nous montre vraiment la vraie nature de Lovecraft.
Sophie Larribi-Glaudel, je crois que vous voulez intervenir à ce sujet. Non, parce que je vous ai vu prendre des notes, en particulier au moment où on prononçait le nom de Derleff.
Alors, comme on a dit en introduction, j'ai chaussé mes lunettes d'historienne des religions et d'historienne du monde, d'historienne du monde grec, donc des mondes anciens, ce qui m'a également beaucoup interpellée en lisant les textes de Lovecraft, en lisant sa biographie, en lisant les publications à son sujet, c'est le problème justement de l'établissement du corpus et l'établissement du canon lovecraftien qui pose des difficultés. Ça a un écho forcément pour nous, historiens de l'Antiquité, puisqu'on a ce problème de l'établissement des corpus sur lesquels on travaille. Donc on sait qu'il y a une part importante du travail d'Auguste Derleff. Donc ce n'est pas Lovecraft lui-même qui a ordonnancé ces textes. Si on sort du simple ordonnancement chronologique, il n'a pas construit lui-même, en tout cas, des recueils. Donc c'est une première difficulté qu'on a justement, je pense, pour reconstituer éventuellement cette mythologie et sa chronologie. Donc voilà, c'est vraiment cette question qui m'interpelle beaucoup. Alors voilà, j'aurais aimé savoir un petit peu si des universitaires travaillent justement sur cet aspect de l'établissement du canon lovecraftien et des difficultés que tout cela pose.
Christophe Thiel.
Moi, j'ai envie de bousculer un petit peu les choses. J'ai envie de rappeler ce qui m'est apparu très clairement, aussi bien à la lecture de la fiction de Lovecraft, de sa correspondance, et bien entendu de ce qui aide à comprendre tout ça, à savoir, je suis Providence, le résultat du travail, de plusieurs années de travail de S.T. Joshi. Ce que j'ai compris, ce qui pour moi est la chose la plus importante à retenir de Lovecraft, c'est que sa première préoccupation était d'écrire un corpus de fiction littéraire et non pas de créer une mythologie. Ce que j'ai particulièrement compris en lisant ces volumes, avant de travailler dessus, il a bien fallu les lire quand même, mais je les avais lus bien avant, hein, c'était l'idée que toute cette mythologie n'a pas été littéralement construite, elle a poussé petit à petit par additions successives, dans laquelle bon, certains amis de Lovecraft ont apporté leur petite pierre, mais elle a plus poussé comme un répertoire, comme une palette de peintres ou comme un bocal, un éventail à bocaux à épices dans la cuisine, une série d'ingrédients qui servent à épicer les plats. Et ça marche, ça leur donne une saveur très particulière. En fait, on pourrait avoir une fausse idée des mythologies anciennes réelles quand on voit des choses comme les théogonies qui ont été écrites ou quand on regarde une série très bien faite sur les grands mythes hein, qui est faite par François Bunel avec des animations très belles qui illustrent les mythes grecs. On a l'impression que tout ça sont des histoires très schématisées, très systématisées et on oublie que c'est le résultat d'une accrétion graduelle qui a duré je ne sais combien de centaines d'années, qui est partie d'éléments simples, de métaphores, etc. et qui est arrivée à des histoires très détaillées. Lovecraft, c'est un peu pareil. C'est un jour, il fait un rêve, il a une sensation bizarre, il en fait un personnage, il lui donne un nom. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que cette histoire de canon lovecraftien n'est pas une chose à laquelle Lovecraft lui-même tenait tant que ça.
Monsieur Joshi, vous avez peut-être quelque chose à ajouter sur le sujet.
Because we have such an immense body of Lovecraft's correspondence, mostly from later in life, but also earlier as well, we can actually establish the exact time that he wrote almost every single story, and I believe I do discuss that in my biography. And it is certainly true, as Christoph says, that this mythology came to be in a very sporadic manner and only got codified in this the great story, The Call of Cthulhu, in 1926. And subsequent stories, Lovecraft built upon that mythology, I think somewhat more consciously, linking these several stories together and broadening the myth little by little. And that is exactly the time when other people also began contributing to it. Initially, his young friend Frank Belknap Long, then Robert E. Howard, then Derleth, and a number of others. But I think one of the most important things one can say about the mythology is what my colleague David E. Schultz says. It is an anti-mythology. Now, what does that mean? The important thing to know is that Lovecraft was an atheist. So how does an atheist come to create this series of gods? Well, as I mentioned, they are not gods, in fact. They are aliens from outer space. It is an anti-mythology because it refutes or perverts what true myth and religion do. Human beings create their religions as a way of establishing an intimate connection with a god. Lovecraft says there is no such connection. These gods or creatures do not, in fact, care one iota about human beings. We will be destroyed along with with all Earth life if they ever took over our world. So Lovecraft is subverting the very essence of religion, and I think that is an important point to make.
Oui, alors on possède, on a retrouvé une telle quantité de lettres et de documents d'écrits épistolaires de Lovecraft, principalement dans sa vie, assez tard dans sa vie, mais pas que, qu'on peut savoir exactement, pratiquement au jour près, à quel moment il a écrit chacun de ses récits. J'en parle d'ailleurs dans la biographie « Je suis Providence ». Et comme l'affirmait Christophe Thiel très fort justement, oui, c'est vrai que cette mythologie lovecraftienne dont on parle, voilà, c'est vrai qu'elle s'est créée de façon assez sporadique et pas si raisonnée, chronologique. Mais il y a quand même cette date à marquer d'une pierre rouge, la parution de l'appel de Cthulhu en 1926, où à partir de laquelle Lovecraft commence avec, de manière un peu plus consciente et raisonner à lier, à tisser un petit peu ces histoires, ces récits ensemble et à élargir un petit peu sa mythologie. Et c'est précisément à ce moment-là que d'autres de ses contemporains commencent à y contribuer. Donc, par exemple, Frank Belknap Long, Robert E. Howard, of course, Et comme mon ami universitaire D. E. Schultz a pu l'affirmer, en fait, on devrait plutôt parler d'anti-mythologie dans le cas de Lovecraft. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut savoir que Lovecraft, il était athée. Alors, comment est-ce qu'une un homme athée se retrouve à créer tout un panthéon comme ça? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est parce que c'est Dieu qui l'a créé, les anciens, etc. Eh bien, en fait, ce n'était pas des dieux. C'était, comme je le disais tout à l'heure, des extraterrestres venus d'ailleurs, de l'espace. Et en fait, Lovecraft, à travers cette mythologie ou anti-mythologie, lui, il s'amuse il fait de la subversion, en fait. Il pervertit justement la conception même, la définition même et le rôle même de la religion selon la définition qu'en ont les humains. Nous, les humains, nous avons créé forger les religions comme un moyen d'établir une connexion avec les divinités, avec les dieux. Mais pour Lovecraft, il n'y a aucune connexion possible. Les dieux, enfin ces extraterrestres, n'ont rien à faire des humains. Et les humains seraient complètement éradiqués en deux temps trois mouvements si les dieux décidaient d'envahir la Terre, par exemple. Et donc, Lovecraft, on voit bien qu'il il s'amuse à faire de la subversion et à complètement détourner et réfuter l'essence même de ce qu'est la mythologie, la religion.
Michael Rock, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti à la lecture de Lovecraft? Parce que ça exprime aussi un petit peu ce que l'on retrouve dans le livre jaune. Cette anti-mythologie, en lisant le livre jaune, on découvre petit à petit les réalités derrière, ce qui se cache derrière Carcosa, etc. Donc on est un plein dedans.
En effet, là où le livre jaune, donc mon roman, résonne avec, la construction que Lovecraft a établie, c'est que on est dans un décalage d'un système de valeurs que l'on connaît bien. Donc le système de valeurs de nos sociétés est en partie basé donc sur les religions. Et donc en créant cette anti-religion, cette anti-mythologie, Lovecraft nous propulse dans un système de valeurs que l'on ne connaît pas. Et c'est ce système de valeurs-là, c'est ce cadre de valeurs-là qui provoque la folie chez ces personnages. En comprenant qu'ils n'ont pas ce lien intime avec ces dieux, ils perdent leur santé mentale. Dans le livre jaune, c'est un petit peu le même procédé que j'ai utilisé, c'est-à-dire c'est à la fois un bouquin sur donc un voyage vers l'ailleurs, vers une autre dimension peut-être, mais c'est aussi un voyage dans l'amour et dans la dépression, et c'est une exploration de soi-même, mais du coup d'un soi-même que l'on ne perçoit pas quand on est dans un état normal. Et donc tout le travail du livre jaune, en effet, ça a été de décaler ce cadre de valeurs, le cadre normal de notre vie quotidienne, pour le transplanter et le rendre cohérent dans un cadre de valeurs qui n'existe pas, mais qui existe uniquement dans un état dépressif, par exemple, ou dans un état qui n'est pas humain.
Merci beaucoup. Alors, l'heure a très vite tourné. Bon, je crois qu'on a quand même réussi à couvrir un tout petit peu de Lovecraft dans tous ses états. Alors, on a évoqué, entre autres, outre la construction des mythologies, la littérature, on a vu tout le corpus qui s'est constitué après ce que j'appellerais le canon lovecraftien, donc avec un certain nombre des suiveurs qu'on a après. Bon, on a évoqué aussi la BD. On sait que dans le jeu de rôle, la mythologie lovecraftienne est très importante. Mais Christophe Thiel, il y a quand même un état de Lovecraft, où Lovecraft n'a jamais été, et où du moins ça n'a jamais été réussi, c'est le cinéma. Pourquoi est-ce que... Alors que c'est merveilleux.
Le cinéma est basé sur l'image et Lovecraft est un adepte de la citation de Mallarmé comme quoi la question n'est pas de montrer mais suggérer, voilà le rêve. Une chose que le cinéma n'est pas toujours à même de bien faire, ou alors ça demande beaucoup, beaucoup de talent. Pour aller très vite, je me contenterai de répéter la banalité qu'on retrouve partout pour la bonne raison qu'elle est profondément juste. Les meilleurs films lovecraftiens sont sans doute des films qui ne sont pas des adaptations d'histoires de Lovecraft, mais qui sont la trilogie de John Carpenter, The Thing, Prince des Ténèbres, L'Antre de la Folie. L'Antre de la Folie étant beaucoup plus lovecraftien que les autres par son rapport avec l'écriture, son personnage d'écrivain. The Thing étant plus dans l'horreur montrée, avec ses pattes qui poussent partout et cette chair foisonnante. Et peut-être Prince des Ténèbres, qui est peut-être moins réussi des trois, mais est peut-être celui qui va le plus dans l'horreur métaphysique, avec cette idée qu'il y a quelque part, dans le sous-sol d'une petite église de quartier de New York, une chose qui est pas autre chose que le mal.
Très bien.
Yes, we have not had very many good Lovecraft movies, but I can mention at least two or three. Christoph is right that some of the best movies are those that are not directly adapting Lovecraft's own work, but allude to him or borrow elements from him. I think the greatest one we can possibly think of is Alien. There is no question that the film Alien draws a great deal on Lovecraft. Indeed, someone is preparing a documentary on that film because it is now 40 years old, and they came to me expressly with the purpose of getting my view about the Lovecraftian influence on Alien. And as I rewatched that film recently, I said, there is indeed an influence and a significant influence in the notion of a human encounter with these immense forces from outer space. There is one film that does adapt a Lovecraft story that I think is very fine. It is a German production called Die Farbe, The Color, and a tremendous adaptation of The Color out of space. It came out about 10 years ago. Perhaps a little hard to find, but it is certainly worth looking for.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de films très réussis sur l'œuvre de Lovecraft, mais il y en a quand même deux ou trois qui sont assez respectables, que je citerai tout à l'heure. Et Christophe a tout à fait raison de rappeler que oui, les meilleurs films issus de la mythologie lovecraftienne, ce sont ceux qui ne sont pas directement des adaptations de ses œuvres, mais qui sont plutôt des allusions subtiles, qui empreinte de son œuvre sans l'adapter à proprement parler. Et je citerai à ce titre le film Alien, parce que la question ne se pose pas. On voit, c'est évident que ce film est une référence à l'œuvre de Lovecraft. Et d'ailleurs, là, en ce moment, il y a une personne dont je ne citerai pas le nom qui prépare un documentaire à propos du film Alien à l'occasion des 40 ans de la sortie du film, du long métrage. Et cette personne est venue me voir justement pour me demander... voilà, de parler de Lovecraft et de ce que du lien que je peux faire entre Alien et l'œuvre de Lovecraft. Et donc, quand j'ai revisionné le film, là, ça m'a paru vraiment évident qu'il y avait un lien entre Alien et l'œuvre de Lovecraft. Ces êtres humains qui vivent cette rencontre avec ces forces venues d'ailleurs, venues de l'espace, qui sont ces forces incommensurables venues de l'espace intersidéral. Évidemment, ça a quelque chose à voir avec Lovecraft. Il y a aussi un autre film allemand qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui n'est pas très, très facile à trouver, mais qui vaut vraiment le détour, qui s'appelle Die Farbe, donc la couleur, et je le recommanderais. Ah oui, pardon, et c'est une adaptation de... oui, c'est ça, la couleur venue de... Tomber du ciel. The color out of space, mais la couleur tombée du ciel en français. Voilà.
Ben écoutez, donc, après ce que nous avons entendu, nous allons pouvoir en fait tourner plutôt vers les livres. Alors, bien sûr, Lovecraft, Je suis Providence, qui fait... rêver quelque part, parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité de Lovecraft, de cet extraordinaire écrivain. Bien sûr, le guide Lovecraft de Christophe Thiel pour pouvoir suivre, le livre jaune de Michael Rock, mais aussi, j'ajouterai, parce qu'on n'en a pas précisé, on a parlé un peu des gens qui rendent l'atmosphère lovecraftienne aujourd'hui. Christophe Thiel a cité Anders Fager qui nous fait l'amitié d'être ici. Mais j'ajouterai aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, que M. Joshi lui-même a fait des anthologies où il a sélectionné des auteurs dont il pensait qu'ils étaient le plus fidèles à la patte lovecraftienne. Et il y a au moins une des anthologies qui s'appelle « Les chroniques de Toulouse » qui a été traduite en français. Donc vous voyez, encore plein de bonnes lectures, et je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos quatre intervenants.